RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time, c'est parti jusqu'à 22h sur RMC et RMC Sport News. Fred Veil, salut.
Bonsoir.
Ça va, t'as passé un bon week-end?
Nickel.
Ah, il t'a souffert un peu quand même, non?
Ouais,
avec la défaite de Limoges, à Pau.
Son club de cœur.
Ah oui.
Non, mais attendez, moi j'habite à Limoges. Arrêtez de vous gonfler avec ça, les gars.
David Cosette, également avec nous. Ça va, David?
Ouais, très bien.
Et Stephen Brun.
Salut, mon petit Pierrot.
Il est déjà à fond sur son ordi,
oui,
en train de le chercher.
Sur ESPN.com. Il est beau, 53 matchs joués.
Ouais. Il est bon, parce que aujourd'hui, effectivement, dans le 1 contre 1 à 21h30, l'actu du basket français, il y aura beaucoup de questions. Sur notre invité, Elie Okobo. Salut Elie.
Salut, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Ça va, tranquille.
Tranquille, en vacances en France?
Ouais, c'est ça, on est en vacances mais je travaille.
Tu travailles? Ouais. Y a pas de répit quand on est en NBA?
Non, il n'y en a pas.
Oh, t'as quand même une petite pause, non? 15 jours, 3 semaines?
Je
même pas?
On va aller en équipe de France, y a pas de répit.
Ouais, voilà, c'est ça, j'ai ma petite pause directement après la saison. Mais
toute la saison, t'étais en vacances un peu, non?
Ça commence. Elie Okobo donc qui est avec nous pendant une heure au programme la NBS au niveau de la Ligue des Champions. On parle d'émotion, on parle de ressenti, ça parle à tout le monde, que vous soyez fan de basket ou pas. On vous attend au 32-16 et puis on va vous emmener dans les coulisses du Final Four de l'Euroleague avec un invité un peu particulier parce qu'il y aura un arbitre français dans ce Final Four de l'Euroleague. C'est Mehdi Difala qui va nous raconter comment on se prépare à un tel événement qui est quand même le must aussi pour un arbitre, hein. C'est vrai, on parle beaucoup des
il faut avoir la chance d'être sélectionné parmi les meilleurs arbitres européens au moins.
Et puis il y a un match en direct en Jeep Elite, la 33e journée, un match qui peut sceller le sort des qualifiés, de tous les qualifiés en play-off. C'est Bourg-en-Bresse Nanterre qu'on suivra donc ce soir en fil rouge dans Buzzer Time. C'est parti.
RMC Buzzer Time. Buzzer Time. Les news NBA.
Alors juste avant de parler de sa saison, sa première saison NBA avec Elie Okobo, plus 6 hein, pour Nanterre à la fin du premier quart-temps, donc dans ce match entre Bourg-en-Bresse et Nanterre. Elie, avant de parler de toi, on va quand même démarrer sur l'actu de la NBA et ses finales de conférence. Ça, c'est incroyable puisque la nuit dernière, il y a eu deux matchs 7 et deux matchs 7 avec des scénarios fantastiques, puisque Portland a remonté un déficit de 17 points et s'est imposé à l'extérieur à Philadelphie.
À Denver.
À Denver, excuse-moi. Et Kawhi Leonard a inscrit un panier de l'histoire pour Toronto, puisque c'est la première fois, c'est une stat incroyable, c'est la première fois qu'une série NBA se gagne sur un buzzer beater du match 7. Ça, c'est quand même dingue, parce qu'il y a eu tellement de séries, tellement de matchs, tellement de scénarios, ouais, tellement de grands champions. Je savais pas ça, David. T'as été surpris de voir cette info, cette stat?
Comme au cinéma. Non, j'étais pas surpris, parce que moi-même, j'avais pas souvenir. Je pense qu'on en aurait entendu parler s'il y avait eu, ça aurait marqué l'histoire,
ça
d'ailleurs.
Ça va y arriver, hein. Vince Carter, justement, qui a failli mettre il y a 18 ans, justement.
D'accord.
Et c'était dans les mêmes, équipes.
Un tir dans le corner, Raptors Sixers.
Exactement.
D'accord.
Et Allen Iverson en face. Et Vince Carter a loupé le tir à 0 degré. Mais un tir moins compliqué que celui qu'avait l'air hier.
Mais comme quoi, je me disais, moi, que si jamais on n'en avait pas entendu parler, c'est que ça n'avait jamais dû arriver. La preuve, c'est que là, tout le monde se souvient. Moi, quand je l'ai découvert, je me souvenais à l'endroit où j'étais. Je m'en souviendrai encore pendant longtemps, c'est sûr.
T'es en train de prendre le petit déjeuner avec moi à Pau ce matin.
Exactement. J'ai ouvert mon téléphone et je suis resté comme ça et j'ai regardé tous les parce qu'après les différents angles sur les différents réseaux et tout ça pour
le voir. On va pas se mentir, c'est un panier très chanceux quand même, Elie.
Je pense que c'est sûr, c'est de la chance. Enfin, comment il rentre, mais après c'est le travail aussi.
La réussite, ça fait moins négatif de dire la réussite que de la chance.
Voilà, c'est ça.
Hein, t'es vraiment dans la provoque.
Le mec, surtout, qui vient de mettre 39 points quand même dans ce match. Donc,
après,
c'est un peu dur de dire.
C'est un tir qu'il a pris depuis qu'il est en NBA. Le tir est compliqué parce qu'il est parti jouer à l'Embiid après la finalité. Et un petit peu chanceuse. Ça touche 4 fois le cercle.
C'est ça qui est dingue.
C'est ça qui est incroyable.
C'est pas une trajectoire.
La trajectoire, elle est obligatoire, cette trajectoire-là.
Évidemment,
sinon, il se fait jouer à l'Embiid qui saute.
C'est ça.
Il a 3 mètres avec plus le bras, ça fait 3 mètres. Il est obligé de lever son ballon.
On va pas se mentir, il est un peu court.
Mais des tirs comme ça, t'envoies des milliers.
Qu'est-ce que
tu racontes, Pierre?
Je suis pas dans le débat de l'émotion du tout.
La preuve, il est rentré.
Des tirs comme ça qui rentrent en touchant le premier cercle, t'en as une dizaine à chaque match.
Et c'est ça qui fait la magie du truc, parce qu'à la limite, si le panier, bon, déjà, c'est un buzzer beater au match 7, donc c'est dingue. Mais c'est surtout la façon, moi, je me mets à la place j'étais pas supporter, je l'ai découvert après. Je mets à la place du mec qui est supporter de l'équipe dans la salle, et tu vois que ça va faire, oui, non, oui, non. Enfin, et ce temps qui dure une seconde, t'as l'impression que ça dure une heure et demie.
L'image
c'est
est
fou.
Folle. L'image est folle.
Mais moi, personnellement, je suis plus impressionné par la maîtrise d'un geste, d'un shoot à la Jordan, et je prends la référence absolue, mais il y en a plein d'autres, hein, que celui-ci, où je trouve que, parce que n'oublions pas que s'il le met pas, ses prolongations, ils sont pas éliminés. C'est pas la même pression, c'est pas le même shoot que tu gagnes ou tu perds. Et en plus, il y a quand même cette réussite qui fait que c'est fantastique, le scénario est dingue, l'explosion de joie est dingue, mais c'est pas, pour moi, c'est pas la plus belle
action de NBA, quoi. T'aurais préféré que ce soit une belle filoche.
Crac, ouais.
Ouais, mais non. Claque. Alors, je vais te dire pourquoi.
Filoche, comme tu dis, ouais.
C'est même quasiment too much. C'est-à-dire que si tu mets ça dans un film ricain, tu vas voir que la balle, elle rebondit. Alors, évidemment, tu le ralentis, hein. Et ça rebondit 1, 2, 3, 4. Tu vas dire, moi, arrêtez, c'est du cinéma. Eh ben non.
Mais non. C'est ça.
C'est la vraie vie.
C'est Elite a kiffé.
La réalité.
Incroyable.
T'as regardé ça en direct ou pas?
Non, j'ai pas regardé ça en direct. Je regarde pas trop en direct quand je suis en France, mais j'ai suivi ça ce matin et ouais, j'étais choqué.
Alors, tu joues à Phoenix, donc Conférence Ouest, Toronto, Conférence Est. T'as croisé Kawhi cette saison ou pas? Enfin, quand je dis croisé, c'est-à-dire que t'as été à la confrontation.
J'ai joué contre lui quand il est venu à Phoenix et à Toronto, il était mis au repos.
On disait la semaine dernière dans Buzzer Time que c'est peut-être la méga star. La moins appréciée,
moins reconnue, de
toute la ligue. T'es d'accord avec ça?
Bah ouais, il est, c'est un joueur incroyable. Il sait faire tellement de choses, mais c'est vrai que la manière dont il parle à la presse, comment il est avec les gens, il est assez fermé. Ouais, c'est sûr. Toronto, c'est un petit marché. Mais c'est un joueur incroyable et je pense que faut récompenser le talent, quoi.
Alors en tout cas en termes d'émotion on a été servi et honnêtement c'est ça chaque année. Alors après pas dans toutes les séries évidemment, mais ça c'est le jeu, c'est le sport qui est comme ça. Je me souviens de la finale San Antonio Miami par exemple où San Antonio avait gagné ou la NBA avait commencé déjà à installer tout le protocole et puis il y a cette dernière minute, même pas cette dernière seconde où Ray Allen finalement renverse complètement le match. Bon, ça arrive suffisamment régulièrement pour qu'on puisse s'en parler de cette émotion que suscite le basket en particulier et donc la NBA sur ses playoffs, parce que la semaine dernière c'est vrai qu'on a été un peu saoulés de réactions après ces matchs fantastiques de Ligue des Champions où honnêtement il n'y a rien à redire sur le spectacle, sur l'émotion, on était au top, on était au summum. Mais c'est vrai, et vous, là, je vais m'adresser aux basketteurs que vous êtes. Vous avez peut-être, hier soir ou ce matin très tôt, savouré une petite revanche sur tous les gens qui disaient, il y a que la Ligue des Champions, il y a que le foot qui produit ça.
Non? Moi, j'avais vu le tweet de notre collègue de bureau, Momo Bouassi.
Qui s'en est pris plein la tête.
Pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais en fait, c'est que chacun vit par rapport à son cœur. Et pourquoi le sport, ça fonctionne aussi bien? C'est parce que c'est le dernier spectacle qu'on peut vivre en direct où on sait que n'importe quoi peut se passer. Et après,
le scénario n'est pas écrit là.
Voilà. Et peu importe le sport, ça dépend juste de ce vers quoi ton cœur te penche.
Après,
voilà.
Maintenant, moi qui suis fan de plusieurs sports, j'ai autant vibré pour la Ligue des Champions que sur le tir de Kawhi Leonard hier. Ça m'a procuré autant d'émotions.
Ah, quand même un Federer qui regagnerait Wimbledon.
J'ai pleuré pour Federer quand il est revenu et qu'il a gagné l'Open d'Australie face à Nadal en finale. Moi, j'ai beaucoup de sports. Je peux crier de joie sur un mec qui fait un carreau à la Marseillaise, à la pétanque. Moi, tous les sports me régalent. J'ai des émotions pour tous les sports. Sur un carreau,
tu n'es pas d'accord avec
le mec qui met un carreau pour la gagne, gros. Non, je pleure pas, mais je lâche un petit cri quand même. Mais après, Momo Boissy, il n'est pas d'amour pour le basket, il a d'amour que pour le foot. Donc forcément, qu'il se régale du foot. Mais les amoureux de tous les sports peuvent vibrer et avoir des émotions.
Et après,
tu n'es
pas d'accord avec cette espèce de théorie ou d'idée que le foot a un truc particulier quand même qui t'emmène encore plus loin en termes d'émotion? Alors, parce que ça bascule sur une action et que contrairement au basket où il y aura forcément, s'il y a égalité, un shoot pour la gagne, qu'il soit rentré ou pas rentré, en foot tu n'es même pas sûr en fait de ça. C'est-à-dire qu'en foot, le but de Lucas, aussi bien, bah 99 fois sur 100, il y aura même pas d'occasion de but à ce moment-là, à la dernière seconde du dernier match. Ce qui rajoute encore un peu plus d'incertitude.
Non, c'est parce que le foot, ça touche plus de monde, parce qu'en plus pour les matchs qu'on a vus, il y a un décorum qui est ouf à Liverpool, etc. Ça génère une émotion, mais ça, ce sont des gens du foot qui ne savent pas comment ça peut se passer dans des salles de basket avec une ambiance qui est absolument extraordinaire. Moi, le bémol sur ce débat-là qui m'intéresse vraiment, je dirais que là où il y a une dimension supplémentaire, ce sont les sports qui sont gérés par une question de temps. Et de fait, le basket avec le chrono qu'on voit en rouge, eh ben c'est pour ça que le basket est l'un des sports les plus spectaculaires, parce que on peut identifier le truc à la dernière seconde. Au foot, effectivement, on voit bien que s'il y a 5 minutes d'arrêt de jeu et que le mec il marque à 94-35 secondes, eh ben c'est l'équivalent d'un buzzer beater et c'est ce qui fait toute l'émotion du truc. Et je trouve qu'on a plus d'émotions sur ces sports-là. Je pense aussi, par exemple, au but de Greg Anctil qui permet à la France d'être championne du monde en 2001 de handball. Il reste zéro. Il y a juste ce dernier coup franc qui est impossible à mettre et qu'il arrive à mettre. Et c'est ça qui fait le sel du truc. C'est là où il y a une notion de les sports, il y a une notion de temps.
Après, attention, un concours à la perche en longueur ou à la hauteur, c'est pareil. T'as le dernier essai, il y a pas de notion de temps, mais t'as la sentence.
Oui, t'as plein de facteurs.
Je crois pas qu'on peut résumer juste foot, basket, les émotions.
Ça dépend de la sensibilité de chacun. Oui. Il y a des mecs, moi, que je regarde du biathlon, ça va me saouler. Mais un mec qui aime le biathlon, il va kiffer de ouf.
Toi, t'es monogame du sport.
Moi, je suis monogame du sport. Je suis monogame tout court.
Non seulement t'es monogame, mais en plus t'es un animal à sang froid. Donc tu as, je pense, pour en émotion, il t'en faut beaucoup plus qu'un Stephen Brun, par exemple, qui est un peu ouf.
Je confirme que moi, pour un carreau, j'ai pas pleuré.
Est-ce que toi, par exemple, en tant qu'amateur de sport, tu te mets devant Liverpool-Barcelone, est-ce que tu prends ton pied?
Il se met pas déjà devant Liverpool.
Alors honnêtement, je me mets pas devant. Si je tombe devant, je vais regarder et bien évidemment, je vais rentrer dans le truc parce que c'est du sport.
Et tu vivras.
C'est un spectacle vivant, mais bien évidemment, pour tous les spectacles vivants. Mais de là à me mettre devant, voilà, c'est plus compliqué.
Eli Okobo, dans ta jeune carrière, quelle est ta plus grosse émotion jusqu'à présent, toi? Sur le parquet, je parle en tant qu'acteur, hein.
En tant qu'acteur.
T'es 44 points. T'es
44 points à Monaco, quoi.
Ouais, je pense parce que, c'était à l'extérieur et c'était les favoris. Même si on a perdu à la fin, mais
tu te sens intouchable à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Tu te sens intouchable. T'as une piscine en face de toi. Il y a juste à mettre un ballon dedans. Et c'était une sensation assez incroyable. Il y avait beaucoup, beaucoup d'adrénaline.
Et en tant que spectateur, t'as une émotion en particulier qui t'a marqué? Basket ou autre? T'aimes le foot?
Ouais, bah après devant ma télé, quoi.
C'est ça, hein.
L'été dernier pour la Coupe du Monde pour la France. Mais c'était incroyable, ouais, j'étais comme un fou.
Tiens, par exemple, Fred, Stephen, vous avez, oui, toi, Stephen, oui, je suppose que oui, t'as vibré pour le titre mondial de la France?
Alors, honnêtement, j'étais en voiture. J'étais en voiture parce que je bouge beaucoup et parce que malheureusement, moi, j'habite à Limoges et j'étais en voiture.
Malheureusement, j'habite à Limoges. Ça va leur faire plaisir.
Non, mais parce que c'est compliqué au niveau des
trajets.
Mais c'est compliqué quand on habite à Limoges et qu'on travaille sur Paris. Vous savez très bien, c'est compliqué. Et en fait, je me suis arrêté.
Ah, quand même.
Je me suis arrêté pour parce que j'étais vraiment content de ça, mais bien évidemment, encore une fois, je reviens au spectacle vivant.
Mec sur l'autoroute avec le drapeau de la France.
Oui, mais exactement, c'est sur l'autoroute, j'ai sorti le drapeau comme un idiot, comme la plupart des gens d'ailleurs, et j'étais très content, vraiment fier.
On va accueillir Benjamin au 32-16, supporter du Stade Rennais. Salut Benjamin.
Salut les gars.
Il a vécu les émotions cette année, hein, supporter du Stade Rennais.
Exactement. Est-ce que les playoffs NBA, c'est comparable pour toi à ce que peut procurer la Ligue des Champions et le foot en général?
Alors, c'est un peu délicat parce que je suis pas forcément du même avis que beaucoup sur le plateau. En fait, je trouve que la NBA, notamment, et poursuivre en plus la NBA, pareil, j'ai eu des super émotions avec les finales 2012, même 2013, avec le match 1 où Parker et Mark buzzer beater quand il est assis, c'est, voilà, c'est des images qui restent. Le problème, c'est le nombre de matchs. C'est le fait que ça va se jouer au 6e, au 7e match. Tandis que, il y a une idée de mort subite dans le foot, parce qu'il y a une, deux, trois unités, en fait, de buts qui sont marquées par match. Le basket, le hand, je pense que vous parliez du handball, et c'est vrai que c'est assez comparable, ça va se compter en dizaines et dizaines d'unités. C'est-à-dire, je prends l'exemple du basket, une équipe qui, au troisième quart-temps, défend super bien, à la mi-temps, ça pouvait faire ex-aequo, ils peuvent se retrouver avec 15 points d'avance au début du quatrième, et on va savoir que 9 fois sur 10, c'est plié. Alors,
pas toujours. T'as vu le match de pro, toi.
Il y a quand même des sacrés retournements de situation.
C'est justement le 9 fois sur 10 qui fait que quand ça arrive, c'est fantastique.
Il va y avoir des exceptions. Maintenant, moi, la seule chose, c'est que... Là, on prend l'exemple de Ligue des Champions. On a eu des matchs de fou, juste pour parler du foot, 8e, quart, demi. Là, on est malheureusement qu'en demi-finale de conférence. Et si tu regardes bien, il y a, bon après vous êtes des spécialistes bien plus que moi, mais il y a de grandes chances qu'on retrouve encore les Warriors en finale.
Dis-moi.
Qui ont géré le championnat de façon quand même assez tranquille, même si c'était moins que d'habitude, mais voilà, qu'on fait une belle saison régulière.
T'as vécu un truc de fou contre le Betis Séville, on est d'accord avec le stade.
Ouais, ouais,
c'était quel tour? C'était en 16e de finale, et ça n'a rien à voir le tour.
3-0 à l'aller, 3-0 en retour, si tu veux. C'est parce qu'à la fin du match aller, il y avait beaucoup de Rennais qui y croyaient plus. Tu vois, c'est le fait de, ça s'est joué à une unité, à la 94e au match retour. Mmh. Si Betis marquait.
Mais quand Denver mène le 17 points, c'est pareil, hein.
Ouais, ouais, bien sûr. Mais ce que je regrette, c'est que, et pourtant, encore une fois, moi, je serais ravi d'aller voir le match de championnat qui aura lieu à l'Accor Hotel Arena en NBA l'année prochaine.
Après, saison régulière, c'est différent quand même. Hein.
Ouais, mais tu viens voir ça quand même. Mais en play-off, ce que je regrette, c'est que si tu prends, regarde, tu prends la première finale, ou non, la deuxième finale que Parker remporte face aux Cavs de Librem, il gagne 4-0.
Merci Benjamin pour ton appel au 32-16, Fred.
Je crois qu'il n'est pas fini.
Ouais, je crois qu'il n'est pas fini.
Mais moi, j'avais fini. Et c'est moi qui ai
raté l'argumentaire. Par exemple, la deuxième finale, Tony Parker, il gagne 4-0. Allez, salut Benjamin, à très vite. Il est en train de finir son histoire tout seul au téléphone.
Non, mais je voulais que Fred réagisse à ça. Parce que je sais que toi, t'es peut-être le moins sensible à cette table, à ce genre d'argument.
Ah ben, je l'ai dit, je suis monogame du basket. Donc forcément, moi, je préfère le basket. Bien évidemment.
Mais même en basket, t'as du mal à t'enflammer, toi.
Moi, si, je m'enflamme pour, mais bien sûr, mais après, c'est intérieur, moi. Je suis quelqu'un de l'intérieur. J'ai pas besoin de
m'enflammer. Je vais raconter une anecdote sur Fred. Il ne pleure jamais devant un film.
Jamais de ma vie.
C'est un truc de fou.
C'est impossible de pleurer devant un film.
Tu veux me dire que E.T. t'as pas pleuré quand t'avais 8 ans?
E.T. Non.
Pourquoi veux-tu que je pleure? Moins ça, quoi.
Pourquoi veux-tu que je pleure?
Parce que E.T. c'est émouvant quand il se barre.
Il se barre sans fin avec le meilleur ami. Ses oreilles qui tombent, tout ça, là.
Mais les gars, si vous pleurez pour n'importe quoi, c'est pas de ma faute. Mais non, je pleure pas.
Ouais, mais allez, c'est pas n'importe quoi. C'est quand tu rentres dans un film.
Non, mais je dois pas rentrer suffisamment dans le film pour.
Alors, qui pleure autour de cette table?
Moi.
Stephen, David, Ellie.
C'est arrivé quelquefois.
Il
ouais.
Y a que toi, Fred. Hein.
Mais je suis ravi.
David, il pleure devant Joséphine Ange Gardien.
Ah non. Moi, ça peut pas m'arriver parce que je n'ai jamais regardé un épisode en entier. Tu pleures devant Joséphine Ange Gardien, dis la vérité.
Mais t'es sérieux, toi?
On ne sait jamais.
T'écoutes l'idiot, toi, en permanence?
On ne sait jamais.
Par contre, je pleure à la fin des petits mouchoirs, par exemple. Et je l'ai regardé deux fois. La deuxième fois, je savais ce qui allait se passer. J'ai pleuré à la fin. Oui. Bien sûr.
Pas avec le sac de sable quand même. Et avant le sac de sable.
Avant et avec le sac de sable.
Et tu pleures aussi devant le samedi soir.
The Voice.
The Voice Kids.
Bien, on remercie Benjamin. Je suis désolé de t'avoir interrompu, mais on va garder du temps pour parler avec Eli Okobo de sa première saison en NBA. D'abord, on vous offre un magnifique cadeau puisque vous le savez, jusqu'au 24 juin dans Buzzer Time, grâce à notre partenaire TCL, vous pouvez gagner une magnifique télé TCL Android Full HD 102 cm avec bien sûr un abonnement d'un an à RMC Sport pour regarder la Jeep Elite. Pour tenter votre chance, vous envoyez Buzzer au 732-16. Buzzer, que tu écris comment, Stephen?
B-U-2-Z, très important, E-R.
Eli Okobo est notre invité. À tout de suite, c'est Buzzer Time sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Buzzer Time.
Buzzer Time, tous les lundis soirs sur RMC et RMC Sport News avec Fred Weiss, David Cosette et Stephen Brun. Eli Okobo et notre invité ce soir. Et puis la Jeep Elite, c'est très important parce que c'est un match qui peut définitivement, c'est les classements en haut en tout cas. Nanterre mène de 12 points sur le parquet de Bourg et donc pour l'instant on connaît les 8 qualifiés en play-off si le score reste là, bien sûr, en tout cas si Nanterre s'impose. Eli Okobo sur RMC.
RMC Buzzer Time. Buzzer Time. L'invité NBA.
Première saison NBA, donc 53 matchs, 16 fois dans le 5 de départ, 5.7 de moyenne, 1,8 rebonds, 2,4 passes. Le bilan des Suns, c'est là qui est le point noir, c'est 19 victoires, 63 défaites, donc une des pires franchises de la saison. Eli, vu comme ça, bon, c'est sûr, c'est pas la régalade de jouer aux Suns. Malgré tout, une première saison NBA, là quand même pour le coup, t'as dû te régaler, hein.
Ouais, c'est sûr, on se régale, on arrive, on fait la Summer League, puis la saison régulière et on rencontre toutes ces équipes et on joue face aux meilleurs. C'est quelque chose d'énorme, j'ai beaucoup appris, même s'il y a eu beaucoup de défaites et il y a eu des moments très difficiles. Et voilà, il me tarde la saison prochaine pour de nouvelles aventures.
Ça va vite quand même, hein. Tu t'es joueur de Jeep Elite, tu te présentes à la draft, t'es drafté, et puis tu te retrouves dans cet univers qui est, on est d'accord, totalement différent de ce que t'as pu connaître dans le basket français.
Ah oui, c'est totalement différent. le style de vie c'est quelque chose d'autre, le niveau de basket c'est le meilleur au monde et voilà, c'est tout ce que je rêve depuis que je suis tout petit et là j'y suis et maintenant faut que je fasse ma place et que je fasse une longue carrière.
Quel bilan tu fais de ta première saison?
Je prends beaucoup de positifs, j'ai joué pas mal de matchs, j'ai eu des hauts, des bas, je pense que c'est une saison rookie, il y a eu le temps de jeu qui était différent aussi, mais je prends beaucoup de positifs, je travaille dur, je suis appliqué et très motivé et voilà, du positif.
Est-ce que t'as des frustrations, des choses que t'aurais aimé faire différemment pour cette première saison?
Je pense que j'aurais aimé être à l'aise et avoir plus confiance sur le terrain plus vite. Pour pouvoir vraiment montrer ce que je sais faire et pouvoir jouer mon jeu comme je l'aime, mais sinon non, je me développe, je m'adapte au jeu NBA et je progresse.
Stephen,
ouais, est-ce que c'est pas compliqué pour toi d'être arrivé dans une équipe où ça fait 3-4 ans maintenant qu'on nous annonce les Suns en reconstruction avec un projet jeune, Devin Booker, DeAndre Ayton qui était le numéro 1 de la draft la saison dernière, un nouveau coach aussi, un coach européen, Igor Kokoskov, et au final c'est un marasme complet depuis 3-4 ans, vous gagnez pas un match, le fond de jeu est quand même un petit peu triste, moi, de ce que j'ai vu cette année. Est-ce que ça a pas été difficile pour toi de rentrer là-dedans dans un collectif proche du néant où Devin Booker se permet de shooter tous les ballons?
Les défaites, c'est sûr que c'est frustrant. Après, voilà, on a travaillé dur, on était appliqué. Il y a eu pas mal de défaites où ça se joue à rien. On n'a pas réussi à être consistant sur toute la saison. Et voilà, c'est vrai qu'en arrivant en NBA, tu perds tous ces matchs. T'es énervé, t'es un compétiteur, t'as envie de tout gagner. Mais ça fait partie de l'apprentissage et je pense que. Et j'espère qu'on va se relever de ça pour la saison prochaine.
Alors justement, la saison prochaine, une première saison de NBA, on sait que voilà, on maîtrise pas tout et qu'à la limite, on a le droit à l'erreur. Est-ce que sur la deuxième saison, tu sens déjà que t'as plus de pression, que les attentes vont être supérieures?
Je me fixe deux objectifs à moi-même déjà. Je me mets la pression un peu. J'ai envie d'être de jouer de très bien. Et ensuite, ouais, c'est sûr, il y a eu l'année rookie, l'année un peu de découverte, l'année où on essaie de s'adapter, tout ça. Et faut arriver prêt, je pense, pour la deuxième saison, même si c'est que la deuxième saison NBA, mais c'est déjà.
T'as discuté avec ton nouveau coach, Monty Williams?
Ouais, on s'est écrit par message déjà, et je vais aller sur Phoenix en juin, et on va pouvoir vraiment échanger, s'entraîner, avoir des rendez-vous.
Et avec ta franchise, t'as discuté aussi?
On a parlé avec James Jones, le general manager.
Un nouveau. Ancien joueur, James Jones.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'il y a la loterie pour la draft qui est demain. Et justement, on annonce des choses un peu surprenantes, mais on annonce des choses pour Phoenix.
C'est-à-dire, c'est quoi?
Zion serait pas pris éventuellement. Peut-être pas pris par
Zion Williamson, numéro 1,
et qui prendrait Ja Morant.
J'ai entendu parler de ça, c'est des rumeurs, on m'en a pas parlé et je verrai bien sur la loterie comment ça va se passer, mais
On va savoir qu'il est plus sur ton poste que Zion Williamson. Mais c'est pour ça, c'est pour ça.
C'est sûr, mais non, on verra bien le jour de la draft.
Eli Okobo dans Buzzer Time sur RMC, c'est quoi les objectifs que tu te fixes? Tu nous dis, moi-même je m'en fixe, donc c'est quoi exactement?
D'apporter plus à l'équipe, d'avoir un temps de jeu régulier, d'être consistant en attaque comme en défense et
fini les passages en D-League.
Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment m'adapter au jeu et être performant et être consistant.
Et ton avenir, pour l'instant, tu l'imagines à Phoenix? Parce qu'on sait que ça peut changer.
Il peut finir cette émission et avoir un texto déjà.
Ouais, c'est ça. La NBA, c'est un business. Du jour au lendemain, tu peux te faire trader. Mais là, pour l'instant, je suis à Phoenix. Ça se passe bien et.
Ça t'a rassuré la fin de saison justement avec Phoenix là, où t'as plutôt été bien, même s'il y a eu des blessures qui t'a permis d'avoir plus de temps de jeu, mais tu sais pas.
C'est une saison que vous avez balancée, la fin de saison.
Ouais, ça. Pour moi personnellement, ça m'a donné un peu de confiance de pouvoir jouer de cette manière. J'ai joué mieux, je me suis senti plus à l'aise sur le terrain.
Plus à droit surtout.
Voilà, c'est ça. On se sent plus à l'aise et on arrive l'été encore plus déterminé pour confirmer cette fin de saison et jouer encore mieux la saison d'après.
Il y a eu ce match contre Utah où t'as en 25 minutes compilé 15 points. Ce jour-là, il se passe quoi? Est-ce que ça change quelque chose dans la vision qu'ont tes coachs par exemple? Est-ce qu'ils viennent te voir après? Est-ce que t'as senti que peut-être t'avais marqué des points ce jour-là?
J'essaie de marquer des points tous les jours à l'entraînement, les extra workouts que je fais et sur les matchs aussi et c'est vrai que ça donne des points, mais faut être consistant et c'est ça le principal. Faut apporter à son équipe, faut quand on a un rôle le faire comme il faut.
Elie Okobo dans Buzzer Time sur RMC, RMC Sport News. David.
Ouais, je voulais savoir si t'avais sur le moyen terme un plan de carrière. On sait qu'on maîtrise pas tout en NBA, qu'on soit bien d'accord. Moi, je pense comme beaucoup ici, je pense autour de la table que t'as typiquement le profil pour jouer en NBA. Mais il y a des joueurs qui ont galéré, qui sont passés plusieurs années sans arriver à trouver un rôle. Est-ce que toi, tu te dis, j'attends, je sais pas, 3 ans, et si j'y arrive pas, je rentre? Ou est-ce que, de toute façon, je sais que je suis fait pour l'NBA, c'est vrai que t'as plutôt un jeu fait pour ça, et j'attends, je suis prêt à passer 10 ans sans avoir une place qui va me convenir parce que je maîtrise pas tout?
Ben moi, je me mets dans la tête que je vais tout faire, je vais tout mettre en place pour pas galérer en NBA. Ça a été ma saison rookie. Je travaille comme un fou tous les jours et je veux vraiment faire une carrière là-bas et je me pose pas d'autres questions et c'est vraiment ce que je veux faire et c'est je pense que c'est comme ça que ça va se passer.
Élie, quand t'étais en Jeep Elite, tu dominais, t'avais des qualités athlétiques hors normes, tu finissais au cercle, t'allais vite, t'avais du ball handling. Quand t'arrives en NBA, est-ce que tu te dis, bah finalement, ils sont tous athlétiques comme moi, ils sont tous aussi rapides que moi. T'as été surpris de voir le niveau individuel des joueurs?
C'est la NBA. Il y a les meilleurs joueurs du monde. C'est vrai que quand tu te retrouves face à un LeBron James, un Kevin Durant, un Russell Westbrook, ça change. Et il faut adapter son jeu. Faut aller en muscu. Faut faire tout ça pour vraiment être. Pour pouvoir les confronter comme il faut. Et
il y a des joueurs qui sont impressionnés vraiment. Tu te dis, ouais, lui, c'est un truc de ouf.
Ouais, il y a Kevin Durant. C'est vraiment impressionnant comme il est grand et comme il sait faire tellement de choses. James Harden aussi.
Gaucher comme toi, c'est ton modèle un petit peu.
Ouais, il a été, c'était incroyable. Il a fait une saison de fou.
T'as fait la misère un peu. T'as pris 2-3
sièges bas. J'ai pris un petit cross, voilà, sur ma première rencontre avec lui, mais.
Ouais, il y en a eu d'autres,
mais ouais, lui, LeBron, tous ces joueurs-là sont vraiment.
Et justement, quand t'affrontes ces mecs-là, t'as quel regard? Tu te dis, putain, ça a été mes idoles, ou justement, tu dis, non, il faut que je les défonce. T'as quel regard?
Bah, je pense qu'à l'échauffement, la première fois que je les vois, c'est vraiment, ouais, je suis en NBA, quoi, c'est bon. Ils sont là, je vais jouer contre eux dans quelques minutes. Mais après, quand je suis sur le terrain, c'est vraiment la compétition, je veux gagner. N'importe quel joueur, peu importe son statut, j'ai envie d'être meilleur que lui.
Pas de selfie, enfin.
Non, pas de selfie, non.
Élie Okobo dans Buzzer Time, dis-nous un mot quand même sur, ce qui va suivre. C'est-à-dire, à court terme, la Coupe du Monde, l'équipe de France. Déjà, avec Phoenix, quelles sont les relations? Est-ce que pour toi, c'est facile d'aller en équipe de France ou est-ce que ça peut être compliqué avec ta franchise?
Non, normalement, il y aura pas de difficulté pour ça. Après, j'attends la liste.
Après, c'est Bowizio, hein. À Phoenix, je pense que Bobak, il a quand même bonne réputation pour négocier.
Ça, pour faire l'entrejean, oui. C'est parfait. Hein.
C'est sûr, ça aide.
Ah ouais, voilà, j'attends la liste. Je vais aller en Summer League avant. Je vais faire la Summer League début juillet et après, on verra la suite.
À Phoenix, il y a une nostalgie de l'époque, justement, de Boris, de Steve Nash, tout ça, parce que en ce moment, ça galère un peu.
Ben ouais, quand même. Les gens nous parlent beaucoup de cette ancienne époque. On voit les photos sur les murs de Steve Nash, tout ça. Mais voilà, on va essayer de construire notre propre génération et d'avancer ensemble.
Peut-être Boris en boîte de nuit aussi.
Non.
Mais Boris, il a dû laisser son empreinte quand même dans ce club, non?
Ouais, c'est sûr. Quand il est arrivé,
ouais,
il est venu sur quelques matchs et c'est vrai qu'il s'est fait applaudir. Tout le monde l'adore là-bas à Phoenix et c'est vraiment quelqu'un de cool.
Elie Okobo dans Buzzer Time sur RMC, l'actu du basket français. Ce sera un spécial Elie Okobo, alors pas à 100%, hein, mais il y aura quelques questions qui concernent la carrière ou l'actualité de Elie.
Et on va faire il peut jouer avec nous,
exactement. Voilà, ça va être vraiment les
vrai
challenger.
Il va quand même répondre. Il va jouer avec tout le monde si ça concerne.
Pas forcément, parce qu'il y a des trucs qui sont pas évidents. Ouais. Mais surtout, on va te challenger, Stephen. Si franchement, si tu gagnes ce match, là, c'est respect.
Bah, tu connais mieux Elie Okobo qu'Elie Okobo lui-même,
franchement.
Respect.
On te met des handicaps, mais c'est pas non plus insurmontable. Il y a pas 10 questions sur Elie.
D'accord.
Il y a 2-3 qui traînent comme ça. Si j'ai le temps de toutes les faire, j'ai fait toutes.
Très bien, Pierre.
On verra.
Très bien, Pierre.
On va s'adapter, tu vois. Crac.
Benjamin l'auditeur qui est en train de finir son histoire chez lui.
Allez, à tout de suite, c'est Buzzer Time sur RMC, le 1 contre 1, toute l'actu du basket français. Et puis, juste avant de rendre la parole au foot avec l'after, on ira dans les coulisses du Final Four de l'Euroleague avec l'arbitre français qui a été retenu pour arbitrer donc cette fin de saison européenne. C'est Mehdi Difala, à tout de suite.
RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time sur RMC, tous les lundis soirs 21h, 22h, Fred Veil, Stephen Brun, David Cosette et notre invité Elie Okobo. C'est la mi-temps entre Nanterre et Bourg-en-Bresse et c'est pas à jouer puisqu'il n'y a plus que 3 points d'écart. C'est toujours Nanterre qui mène, plus 3 donc à la mi-temps. Bourg-en-Bresse doit gagner pour garder un espoir de qualification en play-off, sinon on connaîtra les 8 élus. Et bah ça tombe bien puisque c'est l'heure de passer en revue l'actu du basket français.
RMC Buzzer Time. Buzzer Time. Le 1 contre 1.
Alors ce soir c'est un peu particulier, on va continuer de découvrir un peu notre invité Elie Okobo. 2-3 questions sur Elie, rien de révolutionnaire, rien de trop évident non plus, parce que ça serait trop simple évidemment. Mais comme tu maîtrises cette discipline, Stephen, on va quand même te mettre au défi pour l'une des dernières de la saison.
3 contre 1 là.
3 contre 1 et surtout tu vas faire face à Elie qui va avoir à répondre à des questions qui le concernent. Donc si tu gagnes, franchement,
si les questions c'est comment se prénomme la maman d'Elie Okobo,
voilà. Je suis pas là, sûr de gagner grand-chose. Tu devrais être battu. Mais attention parce qu'il est très rapide hein, le gonze hein. Allez, c'est parti, on démarre. Tiens, bon allez. Non, on va attendre un peu pour parler d'Elie. On va démarrer sur autre chose, totalement autre chose. Qui a déclaré je serai là la semaine prochaine et on va changer le visage de l'équipe. Tu vois un peu l'animal que c'est?
Ah, okay, ça marche.
Il y a James Harden. Bon, ça, c'est sur les parquets de NBA. Mais au 1 contre 1, il y a Stephen Brun. C'est effectivement Herman Kunter, donc l'entraîneur de Cholet, qui est sûr de se maintenir grâce à son succès contre Fos ce week-end et qui prend les choses en main déjà pour la saison prochaine.
Bah, il confirme déjà qu'il fera sa deuxième année, et puis il confirme surtout que c'est lui le recrutement, que c'est lui qui va le faire. Et que le
bonne nouvelle, ça
Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle de prendre la responsabilité de recrutement, parce qu'Herman Kunter, en général,
mais c'est plutôt faire. Vu certaines erreurs de casting de l'année, il vaut mieux que ce soit lui qui s'en occupe direct.
Depuis plusieurs saisons.
Et puis après, quand tu prends Herman Kunter, c'est pour ça aussi, non?
Oui,
pour qu'il soit le patron.
C'est pas... le patron oui.
Bon, très bien, 1-0. Qui a déclaré, au début, c'est frustrant, mais il faut prendre ça au sérieux.
Au début, c'est frustrant, mais
Elie Okobo.
Elie Okobo, bonne réponse.
Eh, c'est moi, je connais mieux que lui.
On a peut-être modifié ma phrase, je sais pas.
Alors, c'est à propos de la J-League. Donc, c'était une question dans une interview,
Ça a été traduit en anglais français.
Non, voilà, non, c'était, un FaceTime.
In the beginning, it looks strange.
Voilà, tu disais, voilà, c'est vrai qu'au début, ça fait tout drôle. Mais que ce qui est très important, c'est de ces passages en J-League.
La saucisse, la J-League un peu.
C'est de les faire.
Chacun joue pour sa gueule.
De manière très professionnelle.
Non, franchement, je pensais que ça allait être pire que ça, ouais. Ouais,
c'est mieux qu'avant.
C'est assez, ouais, c'est ça.
C'est bien, t'as le ballon en premier.
Voilà, c'est ça.
T'as jamais donné, quoi, par contre.
Voilà.
Tu le revois jamais.
Non, mais franchement, avec les joueurs avec lesquels j'étais, ça s'est bien passé. Ils m'ont bien accueilli et on a fait le travail, donc.
C'est quoi la différence de niveau entre la J-League et la NBA?
En fait, il y a des équipes qui peuvent être, je pense, meilleures que la Jeep Elite et d'autres pas vraiment. Il y a des joueurs qui sont proches de la NBA et d'autres, on ne sait pas trop ce qu'ils font là.
Donc, c'est l'ancienne D-League, donc ligue de développement.
Donc il y a un peu de tout, quoi.
Dans lesquels, voilà, chaque franchise a l'opportunité d'envoyer certains de ses joueurs, soit pour leur
jouer,
soit pour autre chose. Éventuellement pour les punir, non?
Aussi pour des mecs qui reviennent de longues blessures, les remettre sur le terrain,
voilà, c'est ça.
Un peu au basket.
Donc Fred Weiss, je pense par déduction a trouvé.
Par déduction.
Donc, apporte le premier point à l'équipe David Elie.
Merci.
À l'égalité un partout. Tiens, citez-moi un joueur qui a joué dans les mêmes clubs qu'Elie Okobo.
Boris Diaw.
Pau, Phoenix, Bordeaux. Alors pas dans le même ordre. Puisque toi t'as démarré à Bordeaux.
Bordeaux, ouais.
Bordeaux, Pau, Phoenix. C'est plutôt anecdotique, mais c'est rigolo. C'est vrai que t'as.
On se suit, voilà.
Ouais. je te souhaite la même carrière, hein, parce que quand même, c'est
pas mal du tout.
Le parcours de Boris, c'est Pau, Atlanta, Phoenix, alors, Charlotte.
Boris,
un petit passage
comédie.
À Bordeaux pendant la grève, enfin le lockout.
Ouais.
Pas vraiment une grève d'ailleurs.
Président joueur.
San Antonio, Utah et Levallois.
Alors on souhaite la même carrière. Boris a commencé meneur comme Elie, mais il a fini pivot. Donc,
ouais.
Je sais pas si
Elie
va terminer pivot.
Non. Donc ça fait 2-1 pour Stephen qui a déclaré ce week-end on a terminé la première période avec un léger avantage mais nous étions loin de maîtriser notre basket offensivement et défensivement. Quelqu'un qui a senti que ça allait mal tourner,
ouais,
c'est François Perronnet, le coach de Limoges battu par Pau 84-69. il s'est pas trompé. Enfin, il a senti que Limoges n'était pas dans le coup. C'est quand même assez curieux. Hein.
Ouais. Enfin, je pense qu'ils auraient dû rentrer au vestiaire avec un peu plus d'avance. Les Limougeaux, ils étaient mieux en place. Je pense qu'ils étaient meilleurs que les Palois sur cette première mi-temps. Pau qui survit grâce à McConnell et Chikoko. Je pense qu'ils ont loupé le coche là-dessus.
Ils auraient mieux fait de sortir du vestiaire tous. D'ailleurs, ouais. Le coach aussi. Hein.
Ouais. C'est le match de l'année à Pau, Eli.
Bah ouais. Classico. Ouais, j'en ai perdu un à Limoges, mais j'en ai gagné un à Limoges aussi, ouais. Faut le souligner.
Tu regardes quel souvenir de ce match un peu spécial.
Des insultes des téléspectateurs, des fans, mais non, c'est quelque chose d'énorme. T'as l'impression que c'est une finale. Tout le monde se bat, c'est la guerre et c'est à celui qui l'emporte.
Alors on parlait de ça avec Evan Fournier l'autre jour, qui disait que lui il le vit comme ça en NBA, c'est-à-dire la rivalité Miami-Orlando, mais que a priori il est presque le seul. C'est-à-dire que ce truc-là tu l'as pas vraiment là-bas, non? C'est qui le rival de Phoenix d'ailleurs?
Les équipes de Los Angeles, Dallas, ouais. Mais c'est vrai que ça se sent pas. C'est différent.
Il y a que au basket universitaire là-bas qu'il y a vraiment cette histoire-là.
Ça fait 3-1 pour Stephen qui a déclaré on ne la joue pas en première mi-temps, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on se réveille et qu'on mette plus d'envie et d'intensité pour avoir ce trophée-là.
C'est Laswell, c'est
Tony Parker,
Charles Cahudi. C'est Charles Cahudi, non mais il est en feu.
C'est
de la chance, tu crois?
Ouais. Ou le talent, il y a un petit peu des deux, je crois.
Laswell qui gagne la Coupe de France donc contre Le Mans. Encore une fois, voilà, un match qui bascule sur une deuxième mi-temps totalement différente de la première.
Heureusement, il y avait que 20, David et moi. Heureusement, parce qu'il n'y avait que 26 points de marqué.
Heureusement que vous commentez des matchs quand même, parce que de temps en temps, ça peut vous permettre de trouver une réponse. Il aime pas trop David. Ça le saoule.
Ouais, faire humilier chaque semaine, au bout d'un moment.
Saison, ça commence à être long.
Je pense que, ouais. Commence à être long.
Bon, alors parlons du match plutôt.
Donc, ouais, effectivement, ça a été compliqué pour Laswell, surtout en première période, où il marque 26 points, une bonne défense du Mans, mais surtout des erreurs du côté de Laswell. Tony Parker est dans le vestiaire et d'un seul coup ça allait mieux.
Eli, on a parlé de ton record.
Et toi aussi, tu t'en fous aussi de mon histoire.
Pas du tout, mais oui. C'est ça l'efficacité. Je vois le chrono. Si vous voulez avoir une chance,
Benjamin, je suis avec toi. 4-1 là. 4-1.
Comeback.
Eli, on a parlé de ton record, 44 points face à Monaco lors du match 1 des quarts de finale l'an dernier. Deuxième performance de l'histoire des playoffs de la LNB. Qui a le record?
Ron Davis de Mulhouse, 45.
Ouais, mais c'est insupportable. Ça, tu vois, c'était la question pour David. Tu vois, je me disais ça, David, c'est sûr, il va le sortir. Mais il est trop au taquet. C'est-à-dire que le mec ne peut pas supporter l'idée de simplement de perdre un point.
Non, mais si tu connais
bravo.
La réponse, moi.
Non, mais bravo, je te dis bravo, mais tu vois, j'ai fait de mon mieux pour, pour qu'il se passe un truc, quoi, qu'il y ait un match. Mais là, ça fait 5-1, ça défile. Qui a déclaré, nous sommes en bonne position, mais rien n'est garanti.
En bonne position, mais rien n'est garanti.
Il faut réfléchir un peu à l'actualité du
Valérie Desmaurie.
Non, c'est pas Valérie Desmaurie.
Marie-Sophie Obama?
Non plus.
Pauline Salagnac, je pense que c'est une fille de Lyon, non?
Tu chauffes.
Pauline Salagnac?
Tu brûles, même.
Ingrid Tanqueray.
Marianne Badiam?
Non, là, vous vous éloignez, par contre. Là, ça refroidit comme on fait avec les enfants.
Hein?
C'est tout simple. En fait, c'est l'évidence même. Tony Parker. Exactement. Le président de l'ASVEL. Alors, l'ASVEL.
Ça le dire.
Qui mène 2-0. T'avais commencé à le dire. T'avais commencé à le dire.
Ouais. Oui, mais on prend la moitié du point, je pense.
Tu dis non.
Ah non, je
suis
sûr.
Il est en train de manger le cerveau.
Ouais. Mais c'est bien. C'est respect, Stephen.
Alors, on était la semaine dernière dans le match 1 pendant l'émission, et alors je vous posais la question si l'ASVEL réussit à gagner ce match parce qu'elles étaient menées quand même assez largement. Est-ce que c'est pas déjà un premier tournant dans cette série? Elles mènent 2-0 finalement. Compliqué pour Montpellier là, non?
Ouais, c'est surtout le fait que leur pivot n'est pas là sans Elenia.
Ouais, sans Elenia, c'est plus compliqué.
Ça devient jouable en étant mené 2-0. On peut imaginer à l'orgueil gagner le troisième, mais je suis même pas sûr que ça aille au cinquième.
Je suis même pas sûr. Ouais.
On va faire vite parce que je vais vous laisser une chance.
Il n'y avait pas des questions sur Elie Okobo?
Bah, il y en a eu.
Ça arrive.
Il y en a eu.
Ça va arriver là.
Ah, je vous en donne une autre encore, mais d'abord, tiens.
Elie Okobo.
Pour relancer le match, connaissance du basket. Quel est le poids minimum réglementaire d'un ballon de basket?
Le poids 650.
650 grammes, non.
550,
poids minimum.
Allez, chacun une réponse. 650.
550.
Steve.
350.
350. C'est Fred le plus près, c'est 567 grammes. Poids maximum, 624 grammes. Voilà, ça relance
et ben,
la série. Voilà.
Et ben, j'aurai appris quelque chose ce soir.
C'est ça. Je gagne vraiment des points minables.
C'est bien, Fred, c'est bien.
C'est les points.
Tout ça, c'est pris.
Une question sur Ellie en 2017. Ellie, médaille de bronze avec l'équipe de France des moins de 20 ans lors du championnat d'Europe grâce à une victoire sur l'Espagne. Qui est le coach de cette équipe de France?
Jean-Pierre Toupane.
Oh, il l'a dit avant.
Mais pas du tout. Je rêve.
Allez, on va dire simultané, j'annule le point. Et donc, on va
il
terminer.
Il y a eu le temps de dire les deux prénoms.
Alors, il y a 5-2. Vous savez ce qu'on va faire?
En tout cas, c'est bien parce que Eli est compétiteur. Tu vois, sur le 1, il est...
Ça, j'aime bien.
C'est bien.
On va finir par des enchères.
Tu feras un an comme moi, tu verras que ce sera plus compétiteur.
Alors, il y a 10 bonnes réponses maximum.
10 bonnes réponses maximum.
Si vous mettez l'enchère à 5 et que vous me donnez 5 bonnes réponses sans vous tromper une seule fois, vous marquez 5 points. C'est bon? C'est compris pour la règle?
C'est superbe.
Ok. Après, c'est un peu difficile, c'est pas évident. Donc, vous avez le droit de vous tromper.
Ah, on a une erreur?
Non, mais si vous vous trompez, je n'accorderai qu'un seul point pour cette question. En gros, c'est pas compliqué pour vous. Faut faire une enchère supérieure à Stephen.
Vous avez compris.
Et pas vous tromper.
Ah, mais
il y a
10
joueurs français qui vont se présenter à la prochaine draft NBA.
Oh.
Combien pouvez-vous m'en citer? Stephen, tu démarres.
Je démarre?
Ouais. Mmh. Combien?
Je vais dire 4.
4? Vous 5. Enchérissez? Allez, 5. Eli, il est là, Eli.
Compétiteur.
Il est là. Et peut-être qu'il les a en plus, hein. T'as chaud aux fesses.
C'est quoi le score?
Tente 6. Là, il y a 5-2. Donc avec 5, ça passe.
Le comeback.
Tu tentes 6?
Mais ça m'explique quoi? Si je fais 6 et que je me trompe, ça fait quoi?
Ah, franchement, si tu te gaufres, à chaque mauvaise réponse, c'est un point pour l'adversaire. Tiens, on va faire comme ça.
Ça me plaît.
Bon. Allez, dépêche-toi, il faut garder du temps pour notre invité.
Bon.
Alors, si tu tentes 6 ou pas? C'est simple, hein. Allez, c'est oui ou non?
Je tente 6.
Tu tentes 6, vous enchérissez? Vous tentez 7?
Tu peux dire 7.
7.
Ah, il est là, il est chaud, Eli.
Je laisse.
Bravo. On vous écoute.
Alors, on va commencer par Sekou.
Sekou Doumbouya.
C'est
bon.
Diguer Diawara.
C'est bon.
De l'élan.
Excellent, ça fait 2.
Cholet, là,
Le joueur de Cholet, oui, un joueur de Cholet, absolument.
Ouais,
il y en a même 2.
Ouais. Abdoulaye Ndoye.
Excellent.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Ça fait 3.
je pense qu'il va les avoir. J'aurais pu aller plus haut, je pense.
Ah, mais ça va tenter, hein.
Après le mois de janvier, il y a quoi?
Yvan Février.
Il y a que là qu'on est bon.
C'est ça.
Il vous en manque 3.
3. Oui,
les 3, vous les avez. Hein.
Jalen Howard.
Ok.
Voilà. Kylian Tilly.
Ça fait 6.
Et pour finir.
Il y a pas le.
Attention, une erreur, c'est mort. Hein. Ah. Et réfléchissez bien.
Hein. Un Scholte, Warren.
Je veux pas te.
Warren.
Ça te dit rien.
Dis rien, toi.
Je l'aide un peu. Parisien, Neil.
Ah.
Dis rien.
Ah, tu les avais tous.
Oui.
Ah, t'es qu'est-ce qu'il y a, tu veux?
À Warren, l'intérieur de Cholet. Ouais, voilà.
Neil Sacco.
Ouais, Neil Sacco.
Neil Sacco, c'est bon de Levallois, avec une petite.
Et celui de Cholet, c'est qui?
De Stephen Brown.
Warren.
Pour la première fois de sa vie, a été fair play avec son adversaire, donc.
J'étais plus fort.
T'auras gagné quelque chose.
Après, j'ai reçu 2 textos de ma femme qui me dit, mais t'es chiant, laisse-les gagner. Voilà, si je veux manger, je vais mettre les pieds sur la table en ce moment.
Donc bravo, donc victoire de la team Okobo. Même si franchement je te félicite, bravo. Stephen, parce que t'as été très bon encore une fois.
Merci. Enfin, super pour Ellie quand même, qui est passé de l'autre côté de l'Atlantique, et on voit qu'il suit. Exactement. Quand même tout ce qui se passe.
Ouais, le nom quand même de ceux qu'on n'a pas cités, Diguet, on l'a dit, Bastien Vautier de Nancy, Warren Wogiren de Cholet. Et voilà, on a fait le tour. Et Adam Mokoka.
Mokoka,
oui, c'est vrai.
Il est un peu light, hein, Mokoka.
Excellent. Tant qu'il est pas 0, ça va.
Non, j'ai compris.
Allez, dans un instant, on vous emmène dans la coulisse du Final Four avec l'arbitre français Mehdi Difala. Mais on a surtout un œil très attentif à Bourg-en-Bresse-Nanterre, puisque Bourg est en train de renverser ce match. Troisième carton, plus 2 pour les locaux qui doivent absolument gagner pour garder une chance, pardon, de se qualifier dans les 8. À tout de suite, c'est Buzzer Time sur RMC.
RMC, 21h-22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
C'est chaud entre Bourg-en-Bresse et Nanterre, plus 1 pour Nanterre. Il reste 2 minutes dans le troisième quart-temps. On se dépêche parce qu'on est un peu à la bourre. On accueille tout de suite notre invité Mehdi Difala, l'un des 8 arbitres retenus pour le Final Four de l'Euroleague qui débute vendredi à 18h sur RMC Sport. Bonjour Mehdi.
Bonsoir à tous.
Ah, alors, dis-nous tout, Mehdi, comment ça se passe pour un arbitre? Parce que nous, évidemment, on est toujours focalisé sur ce qui se passe sur le parquet. Est-ce que pour un arbitre, faire partie de la sélection pour le Final Four, eh ben tu te retrouves avec une certaine pression aussi, un peu comme un joueur qui jouerait une finale.
Bien sûr. Et puis on a envie de donner le meilleur de soi. On est des compétiteurs nous aussi. On est comme les joueurs, on est comme les coachs. On veut aller jusqu'au bout. On veut aller siffler la finale. On veut donner le meilleur de soi. On veut donner une bonne image.
Ça se passe comment pour arbitrer la finale? Vous êtes noté? Vous êtes évalué?
Ah, on est évalué toute l'année. Tous les matchs sont observés. Tous les matchs sont évalués. Et puis à la fin, c'est le boss qui fait sa sélection.
C'est qui? David, le micro est fermé.
Mais c'est selon ce qui se passe sur les demi-finales qu'il juge qui doit arbitrer la finale, hein, c'est ça je pense.
Alors, ça c'est assez complexe puisque comme vous le savez, on est 8. Il y a 2 demi-finales, donc 6 arbitres qui seront pris, donc ça veut dire que les 2 autres, il y en a 2 qui seront pas pris. Bon, il y aura des stand-by comme on dit. Mais ça veut dire qu'il y a forcément 2 arbitres qui vont arbitrer soit le lendemain directement, enfin le surlendemain directement la finale, et il y a aussi la petite finale. Donc les désignations ne sont pas faites pour l'instant, on saura ça jeudi quand on va arriver sur Vitoria. Et bien sûr, les prestations des demi-finales vont influencer sur qui sifflera quoi. Mais il y a déjà 2 arbitres qui ne pourront pas siffler les demi-finales.
Et je m'interrogeais sur la hiérarchie. Est-ce que toute la saison, il y a des arbitres qui ne sont que des arbitres numéro 1, des arbitres qui ne sont que des numéro 2 et des arbitres qui ne sont que des numéro 3? Ou est-ce que ça peut être mouvant? C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu pouvais espérer cette saison, d'ailleurs peut-être que tu l'as été, que je l'ai pas vu, arbitre numéro 1 sur un match, ou est-ce que c'est seulement la saison d'après, est-ce que ça peut bouger en cours de saison, etc. Ça marche comment?
Il y a une hiérarchie qui est établie. Mais par contre, le boss fait des essais pendant la saison. C'est-à-dire que, bon, moi c'est ma deuxième saison Euroleague, hein, donc premier arbitre, ce serait beaucoup trop tôt. Mais il m'a essayé 5 fois en position de deuxième arbitre.
Et là, tu sais déjà que tu ne pourrais être que arbitre numéro 3 si tu arbitres un ou deux matchs sur le Final Four, ou est-ce que tu pourrais
espérer?
D'accord.
Non, c'est sûr. Okay. Sur le Final Four, je serai troisième arbitre, quoi qu'il arrive. Peu importe quel match je ferai, c'est quasiment sûr et certain que je serai troisième arbitre, à moins que je fasse une super prestation si je fais une demi-finale et que je fais une super prestation, on ne sait pas ce qui peut se passer.
Et ils peuvent pas avoir la tentation de mettre sur une finale, je me souviens pas, 3 arbitres numéro 1 côte à côte, par exemple,
Mais ça peut se faire. Le souci, c'est que des fois, ça se passe pas super super bien,
ouais.
Parce que ce sont des gens qui ont des habitudes, et c'est-à-dire ils sont tout le temps premier arbitre depuis des années, et là tout d'un coup ils doivent se remettre au rang de deuxième arbitre.
Tu aurais le dégo,
parfois.
Mehdi Guifala, notre invité. Je me dépêche parce que Stephen, ouais, qui est, tu sais, avait une relation un peu spéciale avec les arbitres, veut parler de quelque chose qui lui tient à cœur.
Est-ce que le fait qu'il y ait pas mal de joueurs français sur ce Final Four, ça peut porter préjudice pour arbitrer une équipe ou une autre?
Non, parce que je les ai fait en play-off, les joueurs français, ça n'a posé aucun problème.
Il n'y a pas d'obligation d'avoir des nationalités différentes par rapport à une équipe turque, une équipe, non?
Non, ils prêtent pas trop attention à ça, le boss. Non.
Ça démarre avec Fenerbahçe et FES Istanbul, donc vendredi à 18h, il y a quand même un client, c'est Obradovic, qui pour le coup a une relation compliquée avec tout le monde, hein, pas que avec les arbitres, qui a une vraie personnalité qui est assez incroyable. Quand t'es arbitre, est-ce que tu redoutes d'officier sur un match comme ça avec Obradovic?
Je dirais plus maintenant. Je l'ai eu au tout début l'année dernière, quand je l'ai fait pour la première fois. Je me suis dit, voilà, parce que j'avais l'image de lui, quelqu'un de très très, enfin souvent virulent avec ses joueurs, avec les arbitres. Et contre toute attente, c'est quelqu'un de très 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 exigeant. On le voit avec ses joueurs, comment il leur parle, etc. Même des fois quand je suis arbitre de centre et que je suis juste à côté de lui, j'entends des choses des fois, je me dis, c'est un fou. Mais je l'ai fait 5 fois cette année, dont une fois sur le match à Zalgiris, le match 4 quand ils viennent les éliminer. Vraiment aucun souci avec l'arbitrage, il est très 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 respectueux.
C'est quoi un match réussi pour un arbitre? Parce que c'est un sport, le basket, dans lequel l'arbitre peut être au centre des débats au moment crucial.
Ouais.
Toi tu te dis, j'ai réussi mon match, quand ça se passe comment en fait?
C'est quand on n'a pas besoin d'intervenir beaucoup. Moi, j'adore les matchs où on n'a pas à intervenir. J'adore les situations de no call. C'est-à-dire, il n'y a pas de coup de sifflet parce que techniquement c'est fort, on n'a pas à intervenir. Il y a un contre et tout le monde a vu que le joueur a touché que le ballon. Mais malheureusement, il y a des situations où c'est un petit peu 50-50. On doit prendre une décision à l'instant T.
Et ça t'arrive de douter d'une décision que tu prends?
Bien sûr.
Est-ce que tu préfères arbitrer, alors je parle pas du niveau, hein, mais arbitrer en Euroleague parce qu'il y a la vidéo qui intervient régulièrement, ou tu penses que c'est pas un confort supplémentaire?
Ah, c'est un confort supplémentaire. D'ailleurs, on l'a demandé à ma entreprise. Et cette saison, on a eu des situations qui ont prouvé que si on avait eu la vidéo, comme le demande la FIBA, hein, restons au niveau corporate, on va dire. On a beaucoup de situations sur des sorties de balles en fin de quatrième quart-temps dans les deux dernières minutes. Des situations d'antisportives qu'on a vues encore très 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 récemment. La position qu'on a sur le terrain fait que lorsqu'on regarde le ralenti, ah bah oui, il y a antisportive, ou alors oui, il y a faute, ou oui, il n'y a pas faute. Mais sauf que nous, on n'a pas le même angle sur le terrain. Mmh. Et on court, et quand on court, bah, nos yeux, ils sont pas à l'arrêt. Et quand ils sont pas à l'arrêt, c'est beaucoup plus difficile de prendre une décision.
Mehdi Difala, rendez-vous vendredi 18h sur RMC Sport pour Fenerbahçe et FS Istanbul, le Final Four tout au long du week-end, bien sûr, sur RMC Sport. Merci d'être venu nous parler du rôle de l'arbitre dans ces matchs qui sont parfois très tendus.
Dans le sport,
Pierrot, c'est l'after. Nicolas Villas, il check sans arbitre, il n'y a pas de sport.
On a la même passion. On a la même passion, on fait pas le même métier.
Quel connard ce mec. Allez, rentre chez toi avec ta défaite.
Ouais,
franchement, tu peux pas, à la fin d'une émission où on est déjà en retard, balancer un truc comme ça sur les arbitres. C'est que, non, on a le même maillot. On a pas le même maillot. On fait pas le même métier, il dit.
Mais ce qui est vrai.
Oui, ce qui est vrai, mais c'est
sur le fond, franchement. En plus, j'étais vraiment,
ça il peut être mal interprété.
Oui, franchement, ça me choquait pas, moi.
Bon. On est en train de manger une minute à l'after. Nicolas Villas arrive. On suivra très attentivement le dernier carton. Égalité 54-54 entre Bourg-en-Bresse et Nanterre. C'est la dernière place en playoff qui se joue. À tout de suite pour l'after.
RMC Buzzer Time.